Je vous invite à lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 51 à 56, dans une version qui est un petit peu augmentée par rapport à celle de la seconde, avec deux petits morceaux de versets à la fin qui ne sont pas dans la plupart des traductions. Ce passage se situe un peu après l'épisode de la Transfiguration sur le mont Horeb. Et puis, en descendant de la montagne, Jésus a guéri le fils d'un homme, d'un père, qui l'avait amené. Et puis voici ce qui se passe après. Tandis que tous s'étonnaient de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Quant à vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré aux humains. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils se mirent à raisonner entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait leur raisonnement, prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean dit alors « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » Et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Et comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire comme le fit Élie ?» Il se tourna vers eux et les rabroua en disant « Vous ne savez pas quel esprit vous anime. » Et ils allèrent dans un autre village. Qu'est-ce qui arrive aux disciples Jacques et Jean? Ce sont deux disciples de la première heure qui ont suivi, qui ont écouté, qui ont observé Jésus depuis que celui-ci a commencé à parcourir les routes et chemins de Judée et de Galilée. Deux disciples qui ont même, avec Pierre, accompagné Jésus sur la montagne où il a été transfiguré, qui ont donc entendu la voix venue du ciel le désigner comme le Fils bien-aimé du Père. Deux disciples proches de Jésus. Et voici qu'il se propose de détruire un village de Samaritains. Hommes, femmes et enfants, bétails et maisons, parce que les villageois n'ont pas voulu accueillir leur groupe, un groupe de Juifs. Parce qu'ils ont été, par ces villageois samaritains, mal regardés, mal vus. Peut-être même que les Samaritains leur ont mal parlé. Après tout, l'inimitié entre Juifs et Samaritains est une réalité de ce premier siècle, et ce depuis des siècles, entraînant mépris, humiliation, condescendance, certainement outrage, des insultes. Et l'on se détourne les uns des autres, et l'on se lance réciproquement des anathèmes, et l'on peut bien vouloir la disparition des autres, alors pourquoi pas avec le feu du ciel ? Bien sûr, aujourd'hui, nous pensons à l'atroce assassinat d'un professeur, il y a moins de 10 jours. Un homme tué pour venger l'honneur du prophète, a expliqué le meurtrier dans son sinistre message diffusé sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce l'honneur de leur maître Jésus ? Le Christ, a confessé Pierre, le Fils bien-aimé, a déclaré la voix sur la montagne de la Transfiguration. Est-ce pour laver son honneur blessé par le refus d'hospitalité des Samaritains que Jacques et Jean veulent ainsi appeler sur ces personnes le feu du ciel ? Il est bien des études de diverses natures pour expliquer comment une personne devient fanatique. Et ce, depuis Voltaire, qui définissait le fanatisme comme une maladie de l'esprit. Toutes ces études, qu'elles soient sociologiques, psychiatriques, historiques, sont très précieuses. Mais pour nous ce matin, voici un récit de la Bible qui aide à comprendre ce chemin, enfin cette dérive vers le fanatisme. Et en cela, ce récit avertit, il avise, il rend sage ceux qui le lisent. Il les prévient du risque, il les rend capables de discerner ce qui représente une graine de fanatisme, cette maladie de l'esprit. Et justement, c'est un esprit que Jésus pointe en rabrouant Jacques et Jean. Ce récit raconte comment les deux disciples en arrivent à cette attitude, à cette violence scandaleuse, consternante, effrayante. Toute violence religieuse nous oblige à penser ce qui, dans la religion quelle qu'elle soit, constitue un terreau propice à cette violence, que ce soit une violence de parole ou d'acte. Car il s'agit de comprendre, même si cela nous heurte, que la violence que Jacques et Jean veulent mettre en œuvre contre les Samaritains, cette violence est l'expression même de leur foi. Une foi qui ne supporte pas la contradiction, une foi qui se veut incontestable, inébranlable, toute puissante au détriment d'autrui, une foi pleine d'orgueil, prompte à ravager, à détruire, à tuer, une foi qui ne choisit pas la vie, mais qui choisit la mort. Et cela ne leur arrive pas tout d'un coup. Le récit que nous avons lu pose des étapes. Trois brefs épisodes successifs avant celui du village des Samaritains. Après ce qui s'est passé au sommet de la montagne, donc, où Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la Transfiguration, où ils ont entendu la parole prononcée sur Jésus, où ils ont aussi été témoins de l'apparition aux côtés de Jésus de Moïse et d'Élie. En bas de la montagne, Jésus a guéri un enfant à la demande de son père, alors que les disciples étaient impuissants à chasser le démon qui possédait l'enfant. Et puis ce sont donc ces trois étapes. Premièrement, Jésus annonce sa mort et ses disciples ne le comprennent pas, ils ont peur de l'interroger. Deuxièmement, les disciples cherchent à établir un classement, ils se demandent qui est le plus grand d'entre eux. Et enfin, troisièmement, ils veulent que Jésus intervienne pour empêcher d'agir un homme qui chasse les démons au nom de Jésus sans être lui-même un disciple. Trois épisodes, trois situations qui révèlent une forme de perversion de la foi des disciples jusqu'à cette réaction de Jacques et Jean devant le refus des Samaritains d'accueillir Jésus. Une réaction que nous pouvons interpréter comme la cristallisation de ce qui s'est joué dans les trois étapes précédentes. Alors reprenons-les, ces trois étapes successivement. Tout d'abord, les disciples ne comprennent pas la parole de Jésus annonçant que le Fils de l'homme va être livré aux humains. Ils ne la comprennent pas, on dirait aussi en français, ils ne l'entendent pas. Après la transfiguration, la guérison de l'enfant, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas accueillir, accepter cette annonce de la fragilité du Fils de l'homme, livré, jugé, mis à mort. Eux, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils l'accompagnent partout où il va. Ils sont même partis sur son ordre annoncer l'évangile dans les villes et les villages. Ils ont guéri les malades. Il les avait envoyés faire cela et ils l'ont fait. Alors comment associer la puissance dont ils ont été témoins et dont ils ont été acteurs avec la vulnérabilité du sort d'un condamné? Comment un disciple peut-il assumer une limite quand il suit Jésus, qui est le Christ, qui est le Messie, qui est le Fils bien-aimé? Comment tenir la mort de Jésus avec la vision sur la montagne d'Élie, le prophète qui n'est pas mort, qui a été enlevé au ciel dans un char de feu? Et les disciples, écrit Luc, ont peur d'interroger Jésus, car ce que Jésus annonce vient ébranler leur désir intérieur, leur désir de puissance et leur besoin d'assurance. Mais quand la foi n'assume pas les limites de l'existence, quand elle refuse la fragilité au nom de la puissance du Dieu en qui elle est foi, elle s'effondre dans la prétention à la toute-puissance parce qu'elle n'est plus confiance, mais projection d'une aspiration et d'une peur intérieure, aspiration à la puissance, voire à la toute-puissance, et peur du risque, peur de l'angoisse, peur de la mort. Dans la deuxième étape de ce parcours vers le fanatisme que propose l'évangile de Luc, ce qui est manifesté par les disciples, c'est un esprit de compétition. Le plus grand, le meilleur, alors, est-ce celui qui a le plus de foi parce qu'il fait les plus grands miracles? Est-ce celui qui respecte le mieux les commandements? Est-ce celui qui est le meilleur orateur pour évangéliser? Ou celui qui prie le plus souvent, peut-être, à moins que ce ne soit celui qui connaisse le mieux ses Écritures. Dans un autre évangile, c'est la mère de Jacques et Jean, toujours les mêmes, qui demandera à Jésus les meilleures places pour ses fils dans le royaume, ce à quoi Jésus répondra qu'il n'y peut rien. Mais ce jour-là, avec les disciples qui résonne pour savoir qui est le plus grand, peut-être se dispute-t-il un peu aussi, Jésus présente un enfant comme parabole de l'accueil, avec un de ces renversements dont il est coutumier dans les évangiles. Vous savez, les premiers seront les derniers, et là finalement le plus grand c'est le plus petit, le serviteur. Et débrouillez-vous avec ça, les disciples. Vaut-il mieux chercher à être le plus petit ou le plus grand? En y réfléchissant un peu, ce n'est pas certain, car l'humilité ne se conquiert pas, elle est le fruit d'un changement d'état d'esprit, d'une conversion. Et une foi qui cherche à se comparer à d'autres fois, la foi d'autres personnes, cette foi-là devient insensée, dans le sens où elle perd le sens de la foi pour celui de la performance et donc celui de la culpabilité. C'est une foi qui a perdu son objet même, ou plutôt qui s'est fixée sur un objet dérivé, selon le critère retenu, un objet qui l'a fait dériver de Dieu vers autre chose, qui remplace Dieu et qui s'appelle toujours dans les Écritures une idole, que cette idole soit la loi, les commandements, que ce soit la Bible, que ce soit le culte, que ce soit la vérité ou quoi que ce soit d'autre. Cette foi-là est devenue savoir et performance. Elle n'est plus la foi qui est toujours risquée, toujours imparfaite, toujours fragile, comme celle du père de l'enfant malade au pied de la montagne qui s'adressait à Jésus en criant « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Enfin, au troisième épisode, les disciples veulent empêcher un homme de chasser les démons au nom de Jésus sous prétexte qu'il ne fait pas partie du groupe des disciples. Les disciples veulent l'exclusivité. Vous savez comme on dit dans certaines publicités. L'exclusivité de l'usage du nom de Jésus le Christ. Et cette exclusivité forcément entraîne une exclusion. Mais dans le même temps, elle représente une mainmise sur le nom, c'est-à-dire sur la personne même du Christ. Mais d'une part, le Christ de Dieu n'appartient ni à quelqu'un, ni à un groupe, ni à une église, ni même à une religion qui serait appelée christianisme. Sans quoi, ce serait le groupe, l'église ou la religion qui serait absolutisée, c'est-à-dire divinisée, c'est-à-dire qu'elle deviendrait idole. Et puis d'autre part, l'esprit qui anime Jésus le Christ est un esprit libre, il est l'esprit de Dieu, et c'est un esprit de liberté qui peut tout à fait animer d'autres personnes que ses disciples déclarés. L'exclusivité du monothéisme, un seul Dieu, n'agit pas contre les personnes, ni entre elles pour les dresser les unes contre les autres. Mais elle agit à l'intérieur de chacun, comme un aiguillon intérieur, pour lutter contre les tentations de l'idolâtrie présente en l'humain. Idolâtrie dont l'une des terribles conséquences est d'étouffer la capacité à aimer. La capacité à s'ouvrir à autrui, à l'accueillir, à le reconnaître. Et l'autre devient alors un ennemi. Il fait peur et la violence surgit d'une volonté d'épuration du monde, mais qui n'est rien d'autre qu'un refus du monde tel qu'il est, un refus de la diversité qui en est une de ses caractéristiques essentielles. Et Dieu n'a pas besoin de défenseurs, ni de vengeurs, ni de dispensateurs de châtiments ou de récompenses. Telles sont, chers amis, trois étapes d'une torsion, d'une perversion de leur foi qui conduisent Jacques et Jean à cet atroce souhait de détruire par le feu du ciel un village samaritain. Et ils prennent pour modèle rien moins que le prophète Élie, celui qu'ils ont vu aux côtés du Christ transfiguré. Vous pourrez aller lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, où il est raconté que le prophète Élie s'est élevé contre le roi d'Israël, Akab, dont la reine Jézabel, d'origine étrangère, rend un culte au Baal, aux dieux de son pays. Pour obliger Akab à chasser les Baals et leurs prophètes de son royaume, Élie a annoncé une sécheresse qui survient, une terrible sécheresse de plusieurs années. Enfin, il provoque 450 prophètes des Baals dans une sorte de compétition de sacrifice où il s'agit d'invoquer pour les 450 prophètes leur Baal et pour Élie, le Dieu d'Israël, pour faire tomber le feu du ciel sur un holocauste préparé. Alors malgré des heures d'efforts, les prophètes des Baals ne réussissent pas à enflammer le bois. Mais il suffit d'une seule invocation de Yahvé par Élie pour que le feu tombe du ciel et consume le sacrifice préparé. À la suite de quoi, Élie massacre les 450 prophètes de Baal. Manifestation de puissance impressionnante. Sauf qu'Élie a échoué à faire changer d'avis Akab, et Jézabel, furieuse, cherche à le faire périr. Élie doit fuir, et il tombe dans une sorte de dépression, une crise d'être, même une crise de foi, de sa foi en ce Dieu qui fait tomber le feu du ciel. C'est cette traversée que les mystiques appellent la nuit spirituelle. Et c'est après cette traversée que Dieu vient à lui dans le bruit d'un souffle léger, dans cette voix de fin silence qui interroge l'image du Dieu violent qu'il y a incarné en égorgeant les prophètes de Baal. Qui a été violent ? Dieu ou Élie ? Mais Jacques et Jean se verraient bien, eux, en dignes successeurs d'Élie, faisant tomber le feu du ciel sur les Samaritains inhospitaliers. Jacques et Jean choisissent la mort par vengeance, par désir de puissance, par déni de la fragilité de la vie, pas par peur de la vie, quand d'autres sont là qui sont différents, par refus que la vie soit le lieu de la finitude, des mélanges, des différences, des séparations, et aussi des déceptions et des frustrations. Car enfin, la vie n'est jamais totalement douceur, bonheur, amour, connivence et communion. Jacques et Jean choisissent la mort pour faire disparaître les divergences, les différences, les tensions, les conflits. Ils choisissent la mort par choix de l'absolu plutôt que par choix du relatif. Car les orientations de l'existence humaine sont bien différentes selon que l'on croit en un Dieu d'absolu ou en un Dieu de relation. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime, dit Jésus aux deux disciples. Un esprit de destruction, un esprit de division, un esprit qui refuse le doute, un esprit qui enferme soi et l'autre, un esprit qui transforme la foi en savoir, un esprit sans amour. Jacques et Jean manifestent tous les signes d'une maladie de leur vie spirituelle, Voltaire disait, maladie de l'esprit. Et dans les Écritures, un tel esprit est désigné comme démoniaque, comme diabolique. Cette réprimande de Jésus constitue pour nous, lecteurs de l'Évangile de Luc, un appel à la réflexion. Réfléchir comme regarder ce qui est en jeu dans les trajectoires de violence, d'exclusion, de destruction, d'humiliation, et qui est bien différent de l'esprit qui anime Jésus le Christ. Réfléchir, c'est-à-dire penser, prendre du recul, emprunter d'autres points de vue, élargir le champ de vision, pour le dire en d'autres termes, faire de la théologie, en déployant toute la dimension critique portée par la théologie et toute sa dynamique, sa dimension dynamique d'interprétation et de créativité. Faire de la théologie pour libérer la spiritualité de ce qui l'enferme dans des formes et des normes obligées et pour garder la distance indispensable qui permet la relation à Dieu comme à autrui. Faire de la théologie pour comprendre le monde, comment y être présent et vivant pour la vie, pas pour la mort. Faire de la théologie pour pouvoir délibérément, patiemment et paisiblement rappeler cette conviction essentielle qu'écrivait il y a déjà presque 6 ans Raphaël Picon dans un éditorial d'Évangile et Liberté. Dieu seul est Dieu, et toutes nos paroles sur Dieu, pour y croire ou pour le nier, ne sont que des tentatives de vérité, des interprétations balbutiantes, des caricatures. Dieu seul est Dieu, au-delà de ce que nous disons de lui, au-delà de tout ce que nous faisons en son nom, au-delà de toutes nos idolâtries. Et cela nous libère, pour les rencontres, pour les dialogues, pour vivre en paix, pour vivre et pour la vie des autres. Vraiment.